Bon, alors d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque d'avoir prévu dans leur programme cette table ronde qui devait réunir des collègues que j'avais connus il y a 40 ans, même si on se connaissait un peu, mais beaucoup moins. J'espérais rencontrer Pierre-Jean Simon, qui au départ devait venir, et avec lesquels on avait eu un certain nombre d'activités sur les relations interethniques et les revendications d'identité régionale. Dans les années, je dirais, 60, je suis anthropologue, et dans les années 60-80, ces recherches étaient très peu valorisées. Ces anthropologues ou sociologues qui s'aventuraient dans ces domaines de recherche se trouvaient dans une sorte de no man's land. C'est une expression de Pierre-Jean Simon, justement, que je trouve très pertinente. Pourquoi ce no man's land? Parce qu'il travaillait à contre-courant des problématiques de l'époque qui étaient le marxisme et le structuralisme. Donc sur des sujets considérés comme non légitimes ou secondaires. Mais avant de vous parler de mes liens avec le pluriel et tous ces chercheurs, je voudrais évoquer mes liens avec le Serein devenu Idéric. J'ai participé, je crois, à quelques sessions de formation parce que mon nom figure dans un des deux, dans un des volumes, notamment les relations économiques. Mais c'est surtout le colloque franco-britannique à Brighton sur les relations raciales, organisé par Pierre Bessenier et Fernando Henriquez, qui m'a permis, en tant que membre du centre de psychiatrie sociale que Bastide dirigeait, Roger Bastide, j'ai participé donc à cette activité du Serein. Le colloque a été publié dans la revue Ethnie, et en dehors de ma communication qui faisait part des premiers résultats sur une recherche qu'on avait entreprise au centre sur les Haïtiens en France, celle de Bastide est très intéressante parce que je pense qu'elle souligne deux choses. D'abord, le caractère pratique des travaux qui avaient été publiés entre 1945 et 1968, donc un caractère pratique beaucoup plus que théorique. Et ensuite, il notait l'absence d'approche comparative. Et justement, créant son centre de psychiatrie sociale, Bastide a créé notamment une équipe multidisciplinaire, un peu comme l'Idéric d'ailleurs, et il avait une volonté de comparaison, d'approche comparative, et on la retrouve dans son programme de recherche, qui portait sur trois minorités de couleur en France, les Africains, les Haïtiens et les Antillais, soit, selon lui, une comparaison de trois cultures en migration, qui réagissent à un même environnement, la culture française. Et Bastide considérait ces trois cultures comme différentes, bien sûr, mais situées sur un même continuum. Il pensait que la culture haïtienne était en quelque sorte intermédiaire entre deux pôles, le pôle de la culture africaine très éloigné de la culture française et le pôle de la culture antillaise beaucoup plus proche. Donc Bastide voulait comprendre la nature des chocs que rencontraient ces migrants face à leur nouvel environnement, la France, en fonction de deux variables, la couleur et la culture. Et il m'avait demandé de prendre en charge l'approche ethnosociologique des Haïtiens, qui appartenait à une classe moyenne, et classe moyenne qui se caractérisait par ce qu'une auteure psychosociologue avait nommé, Erika Bourguignon, avait appelé une ambivalence socialisée, c'est-à-dire que cette ambivalence faisait coexister sans les amalgamer deux héritages culturels, africains et français, et ceci depuis l'enfance de ces Haïtiens de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils étaient partagés entre l'éducation de leurs domestiques noirs créolophones et celle de leurs parents francisés, leur interdisant de parler créole. Et l'étude a pu dégager plusieurs types de comportements de ces Haïtiens en France, qui traduisaient un choix pour l'héritage culturel français de cette ambivalence socialisée. Mais je ne vais pas rentrer dans cette recherche qu'on a menée. Elle a été publiée dans la collection Idérique chez Mouton en septembre 1974. Et Bastide en avait rédigé le premier chapitre, mais malheureusement, il est décédé en avril 1974 et il n'a jamais pu voir le livre édité. Alors, au moment de sa mort, moi, je me trouvais à New York, où, grâce à une bourse postdoctorale de la Fondation Ford, j'essayais de mener une approche comparative des Haïtiens dans la société américaine. C'était une volonté de Bastide d'étudier ces Haïtiens dans trois sociétés d'accueil, la France, les États-Unis et le Canada, puisqu'on savait que la diaspora haïtienne était beaucoup plus importante en Amérique du Nord qu'en France. Mais il n'avait pas réussi à avoir du financement, il n'avait pas réussi à trouver des équipes de recherche à New York ou au Canada pour faire cette recherche. Et moi, avec mes petits moyens, une bourse de la Fondation Ford et après mon détachement à l'Université Laval au Québec, j'ai réalisé à une petite échelle cette comparaison. Aux États-Unis, la communauté haïtienne était 250 000 qui vivaient à New York, dont 80% de clandestins. Donc la comparaison avec la France était complètement différente, puisque en France, on en avait 600 à peu près, et ils étaient beaucoup moins clandestins. Mais j'ai eu l'idée, avant de travailler là-dessus, d'aller en Californie, où un certain nombre de gens travaillaient sur les relations interethniques, dont Georges DeVos à Berkeley, qui avait publié un livre sur l'identité ethnique, et également à San Diego, où j'ai retrouvé l'ami Oriol, qui était là, et qui m'a présenté à quelqu'un qui va déterminer un peu le type de recherche que je vais faire ensuite pendant 40 ans. Il s'agissait d'une sociologue qui s'appelait Anne Cottrell et qui avait mis sur pied un groupe de travail qui réunissait des chercheurs américains sur minorité et mobilisation de leur identité collective. Dans le cadre d'un groupe de recherche multidisciplinaire et comparative d'une grande organisation qui s'appelait LISA à l'époque. Et alors, je lui ai expliqué mes difficultés à travailler sur la communauté haïtienne à New York, et elle m'a mis sur la piste de Frédéric Barthes, que j'ignorais complètement, bien sûr, puisqu'il était ignoré en France à l'époque. Et j'ai découvert par son intermédiaire les diverses approches de l'ethnicité, celles que vous avez brillamment résumées dans votre livre. Moi, je les ai découvertes en 1974 par l'intermédiaire d'Anne Cottrell. Elle avait mis sur pied ce réseau, elle m'a invité à la prochaine réunion à l'université de Kentucky, où j'ai vu de visu une bataille entre primordialistes et instrumentalistes qui était très houleuse. Et moi, je me trouvais là-dedans, je comprenais rien et j'avais beaucoup de mal à voir un peu, enfin, à démêler les différentes approches. Mais enfin, au bout de quelques mois, avec le terrain, les lectures, les discussions, j'ai réussi concevoir l'ethnicité comme un construit et non comme une donnée naturelle, et ce qui m'a permis d'expliquer les variantes des identités ethniques que je repérais sur le terrain, leur fluidité, leur manipulation. Et donc, pour étudier ces Haïtiens à New York, j'ai combiné différentes approches inspirées de Barthes, situationnelles, relationnelles, ce qui me permettait de tenir compte des frontières, des ressources naturelles, des ressources mobilisables, et également une approche plus instrumentale. Mais ce qui est important, et vous en parliez tout à l'heure, c'est que ces Haïtiens à New York découvraient qu'ils n'étaient que des Negroes. Et ils faisaient l'apprentissage d'une nouvelle couleur qui n'était pas celle de 1804, qui avait mis les Français dehors, du noir vertical, comme ils disaient, mais celle du noir du ghetto. Et quelle que soit leur classe sociale, la société américaine leur imposait les mêmes frontières raciales qu'aux Noirs américains. Alors qu'ils soient clairs, qu'ils soient plus foncés de peau, ils n'étaient aux yeux des Blancs que des Noirs, parmi des Noirs, donc ils devenaient invisibles. Invisibles en tant qu'émigrants, mais en même temps considérés comme étrangers par les Noirs américains, parce que ces Noirs américains les traitaient de « Frenchies », parce qu'ils ne comprenaient pas leur « Black English ». Donc, pour faire évoluer ces frontières, les Haïtiens ont mis en avant leur francophonie, et la langue française va devenir un marqueur objectif de leur identité, ce qui leur a permis de se différencier des Noirs américains et de se visibiliser comme ethnique, et à l'époque c'était très important, aux yeux des Blancs. Donc en quelque sorte, ils vont ethniciser leur couleur, et c'est ce que j'ai un peu démontré dans différents articles. Donc, pour aller vite, parce que l'heure tourne, ce séjour aux États-Unis a pour moi été déterminant dans mon itinéraire de recherche va influencer tout mon parcours. J'étais en France, j'ai eu du mal à me réinsérer dans le paysage anthropologique, sociologique, pour toutes les raisons que vous avez énumérées. Et en particulier à Toulouse, où j'avais été nommée à mon retour pour enseigner l'anthropologie dans un département de sociologie, ce qui n'est pas évident, dans un cadre très inspiré du marxisme, ce qui était très difficile pour moi et qui rendait le dialogue quasiment impossible. Donc pour essayer de dépasser cet isolement dans lequel je me suis trouvée, j'ai cherché... Toulouse et Nice étaient très loin l'un de l'autre. Et comme vous savez, les relations province-Paris au niveau de la recherche, à cette époque, étaient dans le sens vertical, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation dans le sens horizontal. Et c'est encore, je crois, la situation aujourd'hui. Si bien que j'allais plutôt à Paris pour voir des collègues que j'allais à Nice pour voir les gens d'Idéric. Si bien que mes relations avec l'Idéric se sont tassées, se sont interrompues. J'ai cependant cherché à dialoguer sur le plan national et international avec d'autres chercheurs. J'aurais voulu revenir aux États-Unis pour continuer ma recherche, mais... Il n'y avait pas de labo. Le labo de Bastide avait disparu. J'avais pas de labo à Toulouse où m'insérer dans ce sens. Et donc, j'avais devant moi des étudiants dont plus de la moitié parlait occitan avec leurs grands-parents. C'était en pleine revendication de l'identité occitane à l'époque, dans les années 75-76. Des chercheurs de l'université, Rémi Pêche, Anne Viguier, qui étaient occitanistes, m'ont un peu influencé. Et donc, j'ai commencé avec mes étudiants une recherche sur l'identité occitane, toujours avec la problématique partienne. Et bien sûr, j'ai rejoint les réseaux de chercheurs de la revue Pluriel, qui venait d'être créée. Et qui s'occupait de ces identités régionales, Louis Quéré sur la Bretagne, Vanda Dressler-Lohan sur la Corse ou le Larzac, Pierre-Jean Simon sur la Bretagne aussi, mais il y avait Rémi Poche, il y avait Michel Auriol, toute une série de gens avec lesquels je pouvais dialoguer. Et en même temps, j'ai créé un comité de recherche en 78, au sein de l'AISLF, qui s'appelait Langue et Identité Collective, qui nous a permis de nous réunir une fois par an pour nous tenir au courant des uns et des autres. Sur le plan international, j'ai tissé des liens avec des gens qui travaillent sur le mouvement gallois, sur le mouvement écossais, sur Michael Hector, qui travaillait sur le colonialisme interne, etc. Parallèlement, j'avais été nommée à Toulouse parce que j'étais américaniste. J'avais fait un doctorat sur un groupe indien d'Amazonie péruvienne qui se trouvait depuis plusieurs siècles en résistance par rapport à toutes les pressions qu'ils avaient reçues religieuses, économiques, politiques, sociales. Et donc, un groupe de recherche s'était créé sur l'Amérique latine et on m'a demandé de prendre en charge un certain nombre de recherches. C'est comme ça que j'ai choisi de travailler sur les mobilisations amazoniennes au Pérou, à l'échelon local, national et bientôt transnational. Et là encore, j'ai appliqué un peu le cadre barthien en repérant des frontières qui présidaient aux identités que créoles, métis et indiens se donnaient. Et dans ces interactions, l'Indien faisait toujours l'apprentissage des attributs négatifs de son identité et ce qui engendrait une autodépréciation de son identité ethnique. Donc, et pour faire évaluer toutes ces frontières qui étaient négatives, il mobilisait des ressources, non pas comme les Occitans ou les Haïtiens qui utilisaient la langue, les Indiens utilisaient leur territoire. Et face à la vision parcellaire du blanc qui classifie les sols, différencie les droits du sol et du sous-sol, lui, l'Indien, il a une vision holiste du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un milieu qui assure son existence, mais aussi qui lui donne une base conceptuelle pour comprendre le monde. Et donc, plusieurs facteurs. J'ai été amenée à comprendre comment il va prendre conscience de cet état de dépendance et une double conjoncture va y contribuer, qui vont être les transformations de l'Église catholique post-Vatican II, qui va renouveler toute son approche missionnaire et chercher à revaloriser les identités ethniques et aider les Indiens à se libérer, et un gouvernement de l'époque qui cherchait à construire une nouvelle société. Donc ce contexte sociopolitique va servir de catalyseur à une dynamique identitaire qui va conduire les Indiens à dépasser leurs identités locales pour construire une identité régionale et bientôt une identité nationale. Encore d'autres facteurs politiques vont y aider. Le temps passe, donc je me dépêche. Bientôt, ils vont, en 84, tout cela va s'enrichir d'une dimension transnationale. Et je vais avoir la chance, en 84, vous savez que les enseignants ont des difficultés de faire des terrains, surtout quand les terrains sont lointains. Donc, en 84, j'avais essayé de bloquer tous mes cours pour faire enfin quelques mois de terrain. Et j'étais arrivée à une date clé qui se passait à Lima. J'ai eu la chance d'assister à une réunion historique où il y avait des leaders, des représentants d'associations nationales de Bolivie, de Colombie, du Brésil, du Pérou et d'Équateur, qui se retrouvaient pendant une semaine et essayaient de faire le point sur tout ce qui les rassemblait et tout ce qu'ils pourraient faire pour s'entraider. Et malgré les frontières qui les divisaient, ils se rendaient compte qu'ils partageaient une même philosophie, une même manière de vivre et de penser, qu'ils pratiquaient une même stratégie de survie, et résultat, bien sûr, d'une même histoire coloniale. Et donc, ils ont décidé de s'unir en formant la COICA, qui est une coordination des organisations indigènes du bassin amazonien. Et ils s'inventaient du même coup une identité amazonienne transnationale. Et pendant cette semaine-là, un avocat américain travaillant pour les Iroquois était venu leur expliquer tout le processus onusien qui était en cours depuis 2 ans et qui avait créé un groupe de travail sur les populations autochtones. Donc, il leur expliqua pourquoi les participants autochtones se réclamaient, qui étaient à l'époque essentiellement nord-américains, se réclamaient comme peuple autochtone, ayant droit à un territoire et à l'autodétermination. Et ils ont décidé de jouer le jeu et d'aller à l'ONU porter leur voix pour dénoncer les politiques du gouvernement, des gouvernements du bassin amazonien. Et donc, j'ai découvert à travers eux tout ce processus onusien, et j'ai décidé de les accompagner. Et pour la deuxième fois de mon parcours, en quelque sorte, j'avais un terrain qui s'imposait à moi. Je ne sais pas si dans vos différents itinéraires vous avez vécu ça, mais c'est assez extraordinaire. L'identité occitane s'était imposée à moi. Moi, je venais d'un Normandie avec un accent pointu et je ne connaissais absolument pas l'Occitanie. Eh bien là, l'autochtonie s'était imposée à moi. Et pendant une trentaine d'années, encore aujourd'hui, j'arrive de New York où j'ai été à l'instance permanente sur les questions autochtones, je suis ce processus. C'est absolument passionnant car c'est un processus qui réunit, enfin qui représente 370 millions d'autochtones dans le monde. Qui représente 5000 cultures, et chaque année, on a un millier de représentants autochtones qui viennent à l'ONU pour présenter leur situation dans laquelle ils se trouvent et participer pendant une vingtaine d'années à l'élaboration d'une déclaration de leurs droits et maintenant à l'application de cette déclaration. J'ai combien de minutes ? C'est fini. Bon, alors voilà, mon itinéraire a abouti à l'autochtonie, dont je pourrais vous parler plus en détail si vous le souhaitez, mais des relations interethniques, je suis passée à l'autochtonie, qui sont d'autres relations interethniques, mais à un autre niveau, car la notion de peuple autochtone est une catégorie politique, bricolée, inventée, mais très efficace.
Merci beaucoup.